Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants de petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP et JPA International.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Guillaume Dosinel, dirigeant associé de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Hervé Puteau, directeur général de JPA International. Bonjour Hervé.
Bonjour Pauline.
Alors aujourd'hui, nous recevons Laurent Tapie, président de Delage Automobile. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors Laurent, vous avez suivi des études de commerce à l'ESCP et obtenu en parallèle une licence d'économie. Vous créez votre première entreprise alors que vous êtes encore étudiant, en partenariat avec Reebok. Et puis vous débutez votre carrière professionnelle chez McKinsey. Et puis très vite, vous devenez entrepreneur en créant ou en reprenant plusieurs sociétés dans divers secteurs. Paris sportif en ligne, rachat de crédit ou encore vente en ligne d'or et d'argent. Et en 2019, voilà que l'aventure Delage Automobile commence. Alors avant de nous parler de Delage et de ses actualités, un petit mot tout de même sur votre parcours. Je crois qu'on peut dire que vous êtes un serial entrepreneur, comme on dit.
Oui, tout à fait. Ouais. J'ai toujours aimé entreprendre et j'ai bien aimé ne pas me cantonner dans un seul secteur d'activité.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez avec votre casquette de refondateur et PDG de Delage. Vous dites que Delage, c'est la société de votre vie. Vous nous expliquez ?
Bah, je suis passionné d'automobile et c'est donc la première fois que j'entreprends dans un domaine qui est vraiment ma passion. Même si j'aimais beaucoup le pari sportif, j'étais pas passionné au point d'automobile. Et donc, en fait, c'est une société que moi, je ne revendrai jamais. Je ferai sortir mes minoritaires à un moment. Mais moi, je peux pas trouver un plus grand bonheur que de diriger une société automobile, de concevoir des voitures et de les voir passer de mon imagination à sur la route. Quand on aime les voitures, c'est quelque chose d'incroyable.
Alors pour nos auditeurs, on précise, Delage Automobile, c'est quand même l'une des plus prestigieuses marques de l'histoire de l'automobile française du début du XXe siècle. Mais elle disparaît en fait dans les années 50. Et voilà qu'en 2019, vous décidez de relancer en fait cette marque pour en faire un constructeur d'hypercars. Ce sont des voitures très haut de gamme qui s'adresse à des clients ultra fortunés. Votre première création, c'est la D12. Vous nous expliquez en quelques mots.
Vous avez parfaitement résumé. Alors, c'est un marché qui concerne environ 1000 clients dans le monde pour des voitures dont le prix commence aujourd'hui à 2 millions d'euros. On est même entrée de gamme au sein des hypercars à 2 millions d'euros. Les Bugatti actuels, le prix d'entrée est plutôt à 3,5 millions et certains modèles vont jusqu'à 5 millions. Et donc, c'est une clientèle extrêmement restreinte, extrêmement exigeante, extrêmement passionné souvent, et donc il est plus facile de s'adresser à une clientèle aussi ciblée, aussi niche que du mass market, mais enfin c'est quand même un challenge très difficile de refaire un constructeur de zéro, mais j'ai eu envie de le faire et ça se passe bien puisque on est maintenant moins de 7 ans après le début de la reprise de Delage et on est déjà une usine en production de voitures livrées à des clients. Et ça, normalement, ça prend 8 ans. Mm-hmm. Bugatti a mis 8 ans à faire ça, et avec les moyens de Volkswagen, et nous, on l'a fait en 7 ans, donc je suis assez content.
Donc, sans mauvais jeu de mots, on peut dire que c'est un bon démarrage. Ouais. Guillaume, vous avez des questions pour notre invité du jour?
Alors, Laurent, votre modèle repose sur une production très limitée. Comment se pilote une entreprise dont la croissance ne passe pas par le volume ?
La croissance passe quand même par le volume, même si les volumes sont très faibles. Et ça a été comme ça pour tous nos concurrents, les spécialistes des hypercars. Alors, Bugatti est le plus connu, mais Bugatti avait les moyens de Volkswagen derrière lui. Mais si je prends des pure players qui sont partis comme moi de zéro, Pagani ou Koenigsegg, je ne sais pas si vous les connaissez. Pagani, c'est un Argentin installé en Italie. Koenigsegg, c'est un Suédois. Ils ont commencé avec zéro voiture, puis ils en ont vendu une, puis deux, puis trois. Et aujourd'hui, ils sont à entre 60 et 70 voitures par an, à 2,5 millions de moyenne. Et c'est des très belles affaires. L'un et l'autre ont été valorisés à 1 milliard d'euros. La croissance s'applique pour nous aussi dans les volumes, même si c'est des tout petits volumes.
Alors justement, un produit à plusieurs millions d'euros, la notion de prix prend une dimension particulière. Comment se construit, selon vous, la perception de valeur à ce niveau ?
En fait, c'est un marché très particulier parce que la concurrence ne fonctionne pas comme ailleurs. Cette niche de 1000 personnes est tellement riche que pour eux, acheter une voiture à 2 millions, c'est anecdotique. C'est ce qui fait que c'est un marché qui ne connaît pas la crise, que pendant le Covid, que toute l'économie mondiale était par terre, eux continuaient d'acheter. On a battu les records des plus grandes ventes aux enchères d'hypercars en ligne. Et ils ne réfléchissent pas comme réfléchiraient vous et moi sur est-ce qu'on va acheter la Peugeot ou la Renault ou la Mercedes, mais pas les trois. Eux, s'ils aiment une voiture, ils l'achètent. Et si 100 mètres plus loin, au cours de Pebble Beach ou d'un autre grand show comme ça, ils tombent sur une autre hypercar qu'ils aiment, ils vont l'acheter peut-être aussi. Les achats qu'ils diffèrent en fonction de l'économie, ça va être ce qui est pour eux les gros achats, c'est peut-être une villa à Saint-Tropez à 80 millions ou un yacht à 120 millions. Ça, ils vont peut-être pas l'acheter en fonction de ce qui se passe dans l'économie. Mais des voitures à 2-3 millions, c'est pas grand-chose pour eux, donc c'est des achats coup de cœur, des achats impulsifs. Et la perception de valeur, après, il faut la construire, c'est-à-dire il faut construire son image de marque, il faut avoir une équipe technique de premier ordre, il faut avoir une usine qui tourne, parce que très souvent, ils demandent à venir à l'usine, venir voir la voiture tourner. Donc nous, on a déjà plusieurs ventes, et toutes les ventes qu'on a eues sont des gens qui ont d'abord vu la voiture physiquement, et la plupart sont venus ensuite la voir tourner. Voilà.
Sur votre segment, les concurrents sont peu nombreux, mais très établis. Comment se positionne-t-on face à des acteurs qui sont déjà des références mondiales ?
Eh ben, en se différenciant, donc, c'est ce qu'on a fait avec la Dodge D12. On a pris un positionnement qui est vraiment unique, de F1 de route. Et la voiture, tant dans son design, qui a été récompensée du prix de la plus belle voiture du monde en 2021 aux Automobile Awards, que dans ses performances, se distingue du reste, puisqu'on est en position centrale de conduite, avec un passager qui est à l'arrière, comme dans un avion de chasse, et qu'on a deux fois plus d'appui aéro que sur n'importe quel autre hypercar au monde. Donc, on est très très proche d'une F1 sur la route, et c'est les sensations qu'on veut donner. Ça s'adresse là à la niche de la niche, parce que le client moyen d'une hypercar, il va prendre sa voiture, sa Bugatti typiquement, deux à trois fois par an pour aller au restaurant avec madame, et il veut un certain confort. Il veut pas que madame soit derrière lui, il veut pas avoir à escalader dans la voiture. Mais pour cette clientèle qui est soit collectionneur, soit les fous du volant, ceux qui conduisent vraiment, cette voiture-là est indispensable parce qu'elle est unique dans les prestations qu'elle offre. Donc, on l'a limitée à 30 exemplaires, il n'y a pas la profondeur de marché pour faire plus sur ce modèle. Mais pour cette clientèle, elle est très attractive. C'est pour ça qu'on a déjà des ventes, alors même qu'on vient de commencer, qu'on est une grande marque, mais une grande marque qui vient seulement de recommencer sa production.
D'ailleurs, je rebondis, vous avez parlé de 30 voitures de l'âge des 12 annoncées. Il y en a 25 qui sont livrées hors de France, tout se fait à l'international.
Oui, oui. Je pense que 5, c'est peut-être même optimiste. On ne fera peut-être même pas 5 voitures en France. Bon, on a déjà 2 commandes en France, mais à mon avis, on fera 3 ou 4 voitures en France et le reste international. Oui.
Hervé Pluto, vous avez des questions aussi pour notre invité.
Bonjour Laurent, bravo bonjour. D'abord.
Merci.
Oui, une question. Alors, sans révéler de secret, parce que ce qui est intéressant quand vous expliquez ce parcours globalement from scratch, c'est quoi aujourd'hui ce que vous retenez du financement de tous ces projets-là ? Parce que j'imagine que c'est un marché de niche. Mmh. Donc, les financeurs ou ceux qui ont de l'appétence pour finalement mettre de l'argent sur la table doivent être aussi dans la niche.
Alors, pas nécessairement, parce qu'il y a les financeurs, évidemment, qui sont des passionnés et qui le font par passion, comme un trophy asset ou un projet passion. Et puis, il y a des gens qui le font parce que, rationnellement, ils pensent que c'est une bonne affaire. Et je ne vais pas trop leur donner tort, je vais vous dire, la première levée de fonds que j'ai faite, je l'ai faite en 2021, donc les deux premières années, c'est moi qui ai tout financé. En 2021, j'ai levé des fonds sur une valorisation qu'on va donner à X, et là, j'ai fait rentrer des grandes personnalités du capitalisme français, François Pinault, Xavier Niel, d'autres qui sont moins connus, mais tout aussi milliardaires. Ensuite, on a refait une levée de fonds 2 ans plus tard, quand on avait le prototype roulant, et une première commande, à une valo qui était 3 fois X. Puis on a refait une levée de fonds qui a commencé en septembre dernier à une valo qui est 7 fois X. Donc, pour ces gens qui sont rentrés au premier tour, la plupart n'étaient d'ailleurs pas des passionnés. Xavier Niel, il n'est pas passionné automobile, ou François Pinault non plus. Leurs actions valent 7 fois ce qu'elles valaient quand ils sont rentrés. Donc, ils ont fait plutôt une bonne affaire en 5 ans. Et là, je fais rentrer de nouveaux actionnaires. Je fais un tour de table petit ticket parce que j'ai tellement eu de demandes de gens qui me disaient on aimerait bien être dans ce projet, mais qui n'ont pas les moyens d'un Pinault ou d'un Niel, que j'ai ouvert le capital. J'ai fait une augmentation de capital de 3 millions, dont 2,5 millions ont été souscrits par mes actionnaires historiques, mes milliardaires. Et j'avais réservé 500 000 pour des petits tickets. Donc, n'importe qui est passionné, qui a envie de rejoindre le projet, à partir de 1 000 euros quand même. On ne peut pas devenir actionnaire de l'âge si on ne met pas au moins 1 000 euros. Bon. Et la valeur moyenne de mon ticket est à 60 000. Donc j'ai des gens qui mettent entre 1 000, j'en ai un qui a mis 500 000, d'autres 200, d'autres 100. Mais la valeur moyenne est autour de 50-60. Et je fais rentrer de nouveaux profils, et c'est très intéressant. Par exemple, j'ai l'ancien directeur général de Valeo qui est parti à la retraite, qui est rentré, qui nous a dit le jour où vous serez à 20-30 voitures, la montée en charge industrielle, c'est mon métier. Et donc, elle a tellement fonctionné qu'au lieu de faire 3 millions, je l'ai monté à 3,5, puis à 4, puis à 4,5, puis à 5. Et là, je suis en train de clôturer à 5 et je vais devoir encore l'étendre. Je vais le faire une dernière fois, je vais le faire jusqu'à mai, parce qu'après, il faut que je la ferme pour faire entrer des gros tickets d'investissement. Là, je suis sur la plus grosse levée depuis le début de l'affaire, parce qu'on est au stade où on a largement dérisqué le dossier, on est rentable pour la deuxième année d'affilée. On va chercher 11 millions pour construire la prochaine voiture, qu'on développe en partenariat avec Michelin.
La torpille 100A.
Exactement, avec le but de battre le record du monde de vitesse sur route. Et la botte secrète, c'est Michelin, parce qu'en fait, la limite, c'est la résistance du pneu, et ceux qui sont les plus forts au monde pour faire un pneu qui va vite, c'est Michelin. Bugatti a le record avec l'Aveyron avec un pneu Michelin, puis avec la Chiron avec un pneu Michelin, et de là, je l'aurai avec un pneu Michelin.
Autre question
Oui, alors ça, simplement, par rapport à tout ce que vous dites, finalement, est-ce que vous considérez que vous avez de la concurrence ?
Oui, bien sûr, il y a de la concurrence, parce qu'on n'est pas tout seul sur les créneaux des voitures à plus de 2 millions, on n'est pas tout seul à vouloir faire le record du monde de vitesse, ou à faire une voiture qui puisse battre le record du Nürburgring. Si la D12 allait au Nürburgring, elle serait probablement dans le top 3 des meilleurs temps. Donc, il y a de la concurrence, mais comme je le disais tout à l'heure, ce marché ne fonctionne pas comme les autres, parce que le client ne va pas dire « Ah, est-ce que j'achète la Delage D12 ou est-ce que j'achète la Aston Martin Valkyrie, par exemple ?» S'il aime les deux, il va acheter les deux. Voilà, c'est ça la différence par rapport à la plupart des marchés automobiles classiques, on va dire.
Allez, une petite dernière question, parce que ça va très vite. Vous aimez le sport, en particulier le foot et la F1, on a compris du coup. Mais vous êtes aussi un joueur de piano. Est-ce que vous trouvez encore le temps de jouer ?
Ah oui, ça c'est indispensable pour moi de jouer au piano. C'est un moyen de penser à autre chose, de déstresser, de m'évader. J'ai toujours eu besoin de jouer au piano, ouais.
Merci beaucoup Laurent Tapie d'avoir répondu.
Et je précise pour ceux que ça intéresse que s'ils veulent participer à l'affaire, ils me contactent directement sur LinkedIn.
Ok.
Je réponds à tout le monde.
C'est entendu. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous.
Avec grand plaisir.
Merci également à vous Guillaume et Hervé. C'est déjà la fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte LinkedIn. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité. Merci encore.
Merci à vous.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio en partenariat avec GFIP et JPA International.